Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome to Comme d'Archi Podcast Season 5.
Saison 5, dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant.
Now.
Lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Chers auditeurs, bonjour. Ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Nicolas Deshaies Fernandez. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Bienvenue dans Comme d'Archi. Tu es paysagiste et botaniste et à la tête de l'atelier NDF. Merci de revenir dans Comme d'Archi, c'est ta seconde fois.
Mmh.
En effet, tu es déjà venu nous voir en 2021, déjà. Tu as d'ailleurs ouvert notre saison 3 avec le numéro S3 hashtag 1 en français, suivi du format court en anglais, S3 hashtag 2 sur le domaine de Fréfossé à Étretat, un travail de réflexion autour de la légende d'Arsène Lupin. Peut-être que tu pourras nous en reparler.
Oui, ouais. Oui. Bon.
J'invite d'ailleurs nos auditeurs à redécouvrir ces numéros où tu parles surtout de ton parcours et de tes projets, de l'histoire des jardins et de l'actualité en matière de paysage. On y comprend aussi comment l'architecture et le paysage sont intimement liés. Tu reviens aujourd'hui avec une nouvelle actualité que nous sommes dans l'impatience de découvrir. Mais auparavant, j'ai des nouvelles questions. Et on va débuter sur les questions qui portent sur le goût. Un goût essentiel, qui est celui des plaisirs de la table. Que représente-t-il pour toi? Quels sont tes mets préférés? As-tu un souvenir gustatif à partager? Et d'ailleurs, les plaisirs de la table viennent-ils pour toi en prolongation de ton travail sur le vivant? Ça fait beaucoup de questions.
Oui, mais c'est hyper intéressant. C'est une question encore que vous ne m'avez pas posée.
Ouais.
Et c'est vrai que les plaisirs de la table, c'est un peu ma deuxième passion, ou la première, je ne sais pas. Manger, être à la table avec des amis, de la famille, même avec des gens qu'on ne connaît pas et qu'on commence à découvrir autour justement de ce qu'on mange, de ce qui est partagé, ça fait partie aussi de mon quotidien. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et d'inviter, de cuisiner. Au risque de décevoir beaucoup de gens, je ne suis pas végétarien. je réduis la consommation de viande. Donc, il y a un peu pas mal de choses sur la table. Et c'est vrai qu'en tant que paysagiste, je fais très attention à ce que ça soit localisé, de saison. Là, par exemple, j'ai très hâte que les asperges arrivent et que les fraises aussi, pour pouvoir changer un peu aussi de régime alimentaire. Parce qu'au début, quand le potiron arrive, on est tous contents. Et puis maintenant, je commence à être un peu lassé du potiron. Mais c'est toujours en lien aussi avec les territoires. Il y a peu de temps, je me suis installé dans le Loiret pour retaper un vieux moulin à fer. Et donc, j'ai mon potager, je fais mon safran. Qui après parfume l'ensemble des plats que je peux faire pour mes invités. Et le safran en particulier, c'était une des cultures les plus communes du Gâtinais, donc qui est une région de France qui est entre le Loiret, Lyon, la Seine-et-Marne. Et en fait, c'est en faisant des recherches sur le paysage, le territoire de ce lieu-là, que je ne connaissais pas de base, que j'ai appris que c'était le safran qui était préféré de Louis XIV à sa table. Et donc, j'ai commencé à en planter. Et maintenant, j'ai aussi mon propre safran. Donc, paysage, histoire des territoires et cuisine, pour moi, c'est essentiel.
C'est intimement lié. Alors, tu as peut-être un plat que tu préfères ?
Alors, j'ai pas vraiment de plat que je préfère. Ça sera des souvenirs. Moi, je suis franco-espagnol. Et donc, forcément, ça va être sur beaucoup de métissage entre les plats bien français et les plats bien espagnols. Et généralement, il n'y a pas beaucoup de légumes.
Il y a beaucoup de riz.
Il y a du riz, il y a pas mal de viandes différentes. Mais voilà, c'est plutôt... c'est pas tant le plat en lui-même, c'est ce qu'il provoque et ce qu'il évoque.
Un souvenir gustatif ?
Alors, le souvenir gustatif, c'est autour de la menthe. Quand j'étais petit, mes parents avaient acheté une ferme dans l'Entre-deux-Mers en Gironde, puisque moi, je suis originaire de Bordeaux. Et c'était une vieille ferme qui était un peu abandonnée depuis un certain temps. Et j'ai un souvenir de mon père passant le rotophile pour pouvoir avoir un espace où on pouvait jouer. Et il y avait cette menthe qui était présente, puisque le terrain était assez humide. Ça devait être peut-être un reste d'un vieux potager et la menthe par Stolon s'était propagée. Et ça sentait très, très fort. Et on avait mangé justement des fraises avec cette menthe-là. Et cette odeur, dès que je me retrouve à l'extérieur et qu'on se promène et qu'on froisse de la menthe en passant, instinctivement, il y a ce souvenir-là, gustatif et olfactif, qui revient à la surface.
Mmh. Donc c'est lié à un lieu, c'est intéressant. Alors, lors de ta précédente interview, tu nous précisais que tu avais pris ton envol en tant qu'indépendant en 2020, ce qui reste relativement récent. Un sacré défi aussi que de naître professionnellement en cette période du Covid où tout était en suspens. Pourtant, quand tu es venu, tu avais déjà beaucoup de projets en cours. Notamment, à l'atelier, vous étiez lauréat sur le volet paysager d'un gros projet de groupe scolaire au Luxembourg, avec une livraison prévue en 2034, ce qui pouvait représenter pour ton agence une sécurité. Tu vas nous préciser tout ça. Mmh. Mais l'on sait aussi que les projets peuvent s'arrêter du jour au lendemain, surtout dans la période que nous traversons aujourd'hui. Et tu évoquais aussi la dernière fois la difficulté d'accéder à la commande. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui à l'atelier ? Quels sont tes ou vos nouveaux projets ? Parce que je sais que tu es très attaché à ton équipe aussi, si tu as pu la maintenir.
Tout à fait.
C'est super. Et est-ce que tu peux nous en parler en détail ?
Oui. Alors, le projet du Luxembourg à Mondorf-les-Bains, il est toujours d'actualité. On est en pleine phase d'études. Il y a eu un petit trou d'air... de fait de la politique du Luxembourg, puisqu'ils ont changé de Premier ministre. Donc forcément, comme nous en France, quand il y a les municipales, il y a toujours un trou d'air le temps que les équipes se remettent en place. Donc on a pu anticiper aussi, d'un point de vue projet, trésorerie, à l'agence, puisque c'était déjà anticipé. On savait qu'ils allaient changer leur Premier ministre. Néanmoins, c'est un projet au long cours, en effet, qui demande... un travail différent puisque les normes et les règlements ne sont pas les mêmes qu'en France, donc il faut tout adapter notre manière de faire. C'est frontalier et pourtant les manières et les pensées ne sont pas les mêmes. Donc il faut pouvoir s'adapter, mais ça c'est le propre du concepteur, de toute manière, que ça soit un projet en France suivant les communes, c'est pas du tout les mêmes, les collectivités, c'est pas du tout les mêmes manières aussi de faire le projet. Et puis, en effet, il y a des nouveaux projets qui sont arrivés, d'autres qui se sont arrêtés. Tu parlais justement du domaine de Fréfossé, où on avait fait un gros travail sur la légende d'Arsène Lupin, où en fait le porteur de projet a fait faillite à la suite du Covid. Et donc le projet s'est subitement arrêté une fois qu'on a eu livré en fait, les études de préalable, faisabilité. Bon, c'est la vie d'agence aussi. On est tous confrontés à ces démarrages très très rapides en fanfare. Et puis, des fois ça va au bout et des fois non. Donc, il faut en faire le deuil. Voilà, c'est un projet qui a été super sur lequel travailler, mais qui a été un peu le terreau aussi des autres projets.
Ouais. Alors, il a été pas mal écouté dans le podcast en version anglaise. Forcément, c'est lié à Arsène Lupin, donc ça attire comme sujet. Et on se dit, mais qu'est-ce que va devenir ce domaine ?
Alors, il reste toujours une propriété privée. C'est toujours ce même propriétaire qui reste maître de ce domaine-là. Mais le projet de transformation en hôtel, restaurant, ouverture au public est pour l'heure abandonné, faute de moyens.
Bon, bah, souhaitons que ça revienne un jour.
Voilà, avec moi ou un autre.
Alors, tes nouveaux projets ?
Alors, les nouveaux projets, on a, à la suite justement du Covid, on a été souvent appelés. Principalement pour les missions en lien avec la botanique, sur notre expertise autour du végétal, et souvent pour de la déminéralisation, de la désimperméabilisation, que ce soit dans les cours d'école, les espaces publics. Et donc là, en ce moment, on est en train de travailler, on finit les études, on est en train de finaliser le marché pour attribuer le marché à une entreprise pour un futur jardin public à Bordeaux, dans le secteur des bassins à flots. Dans le plan d'aménagement qui a été dessiné par l'agence ANMA, donc de Nicolas Michelin, deux jardins publics de 8000 m² chacun qui se font face l'un l'autre
de part et d'autre
des bassins à flots. Et donc, en fait, c'est un travail qui a été débuté en 2021 sur une réflexion du Grand Port Autonome de Bordeaux, puisque c'est lui le porteur de projet, pour déminéraliser des poches de stationnement. Dans le projet de Nicolas Michelin, il y a eu la création d'un parking en superstructure et pour désengorger l'espace public qui était vraiment envahi de voitures et principalement des voitures ventouses qui restaient là toute la journée. Et donc, il y avait une réelle problématique en fait, de stationnement. Et donc, à la suite de ce parking de construit, le port a décidé de supprimer cette poche de stationnement de 8000 m² qui est devant l'agence La Urba, l'agence d'urbanisme de la métropole bordelaise. Et donc, tout le travail a été fait de désimperméabiliser, retrouver une forme de terre. Je dis une forme parce que c'est un territoire, les bassins à flots, qui ont été complètement modifiés par la main de l'homme à multiples reprises, par les Néerlandais à un moment donné, après par les Allemands pour construire la base sous-marine, pour y stocker leur sous-marin pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, tout est en remblai. Donc forcément, c'est pas de la terre. C'est pour ça que je dis une forme de terre, parce qu'il a fallu qu'on fasse tout un travail de pédologie, donc de travail du sol, pour savoir qu'est-ce que peut pousser à cet endroit-là, qu'est-ce que pousser historiquement, mais toujours en ayant au fond de la tête la réflexion aussi du réchauffement climatique. De ce que je vais planter aujourd'hui, il faut que ça dure encore pour les 100-150 prochaines années. Il y a des modélisations, mais je pense que là, on est trois autour de cette table avec l'ingénieur du son. On est trois autour de cette table. On a trois visions différentes de ce que peut être ce réchauffement climatique. Donc, on a des idées, mais on n'en sait rien. Donc, nous, ce jardin, c'est aussi un peu un laboratoire. Il a été porté aussi par les élus de la commune, enfin de la ville de Bordeaux, par Bordeaux Métropole, l'intercommunalité. Donc, c'est aussi un test pour voir comment la palette végétale s'adapte.
Oui, et puis il y a deux problématiques, à mon avis. Il y a à la fois, effectivement, ce sol artificiel en sous-œuvre, et puis il y a aussi la Garonne. Comment se comporte-t-elle ? Est-ce qu'elle peut venir envahir ces zones ?
Alors, justement, ça, c'est des retours d'expérience qu'on a pu faire en tant qu'observateur sur déjà la palette végétale qui a été plantée, par exemple, sur les quais qui ont été réaménagés. Et donc, instinctivement, il y a des frênes, par exemple, qui ont été plantées, puisque c'est une plante de ripisylve, donc qui pousse le long des berges des rivières, donc avec les pieds qui aiment l'humidité et qui acceptent et qui tolèrent des épisodes d'inondation ponctuelles. C'est pas des plantes de marécage, mais qui acceptent d'avoir un peu d'humidité. Et on s'aperçoit, à l'expérience, maintenant ça fait peut-être 15 ans que le projet a été livré, qu'on les coupe les uns après les autres, parce qu'en fait, ces remblais sont très drainants, donc très asséchants. Et finalement, les arbres n'ont pas accès à l'humidité de la Garonne, puisque ça a été tellement poldérisé, tellement minéralisé, que, en fait, l'accès à l'eau de la Garonne et à la capillarité de cette eau n'est pas disponible pour les plantes. Donc, finalement, on s'aperçoit que c'est peut-être davantage un peu plus haut, il y a des coteaux calcaires plein sud, avec une palette végétale avec des influences méditerranéennes. Mais on s'aperçoit que c'est peut-être davantage cette palette végétale, alors que c'est contre-intuitif, puisqu'on pourrait se dire c'est au bord de l'eau, on va mettre des choses, des plantes qui poussent au bord de l'eau. Pas forcément. Et donc justement, on va faire ce test-là sur les deux projets qui s'appellent pour le moment G1, G2, parce que c'est devant les hangars G1 et G2 et le hangar H37. Pour le moment, il n'y a pas encore de nom officiel sur ces jardins-là. On va faire le test d'avoir des plantes de ripisylve et des plantes d'influence méditerranéenne. Et on verra bien lesquelles, à la longue, résistent le mieux.
Mmh. Et alors, la Garonne est très chargée en limon, oui. Il me semble, d'où sa couleur, un peu terreuse. Est-ce que ça change au niveau du choix des espèces ou non? Parce qu'en fait, c'est minéralisé et qu'on est dans un autre sujet, du coup.
Ben, nous, on a fait un très gros travail sur la palette végétale Île-de-France et Bordeaux. Alors, nos projets sont globalement situés sur ces deux pôles territoriaux. On a fait pour l'association pour un design soutenable mis en place par Hélène Aguilar, qui nous a invités pour faire un jardin éphémère dans son exposition qui s'appelait Frugal, où on a fait un travail de territorialisation de la palette végétale. Où on a analysé toutes les cartes de végétation du CNRS depuis le tout début qui est des cartes jusqu'à la toute dernière 1999. Ils ont arrêté. Après, tout s'est fait de manière très informatique. Ils ont arrêté d'imprimer des cartes, de faire ce travail-là. Tout passe par plutôt satellite. Et donc, on a synthétisé pour avoir des grandes poches de territorialisation de ces végétaux. Ce qui nous permet d'adapter suivant le lieu où on va intervenir pour faire nos projets de paysage, pour avoir une palette végétale qui est vraiment localisée, avec la nuance près, comme je disais tout à l'heure, du réchauffement climatique.
Oui, parce que c'est ce que j'allais te dire, ça change très vite.
Ça change.
Pas si vite que ça.
Ça change, mais... On a encore le temps d'adapter les choses. Et c'est surtout aussi, donc, il y a le réchauffement climatique et l'anthropisation. Puisque, quand même, beaucoup de nos projets se trouvent en milieu urbain. Quid de cette territorialisation en milieu anthropisé, où justement, on est sur des remblais, où on ne retrouve plus le paysage originel, que je mets entre guillemets. Donc, c'est faire aussi des suppositions... sur ce que pouvait être le paysage auparavant, à quel moment on s'arrête en disant « c'est ce paysage-là que j'aimerais pouvoir reproduire, reconduire ». Même si je suis très attaché au paysage naturaliste, il ne faut pas oublier qu'on est concepteur, donc on intervient. Donc forcément, c'est une forme d'artificialisation. Voilà où je trouve que c'est intéressant, c'est justement d'estomper cette artificialisation. Ce vernis vert qu'on voudrait souvent nous faire mettre. Et donc, c'est trouver le bon curseur entre ce qui est juste d'un point de vue biologique, mais avec aussi ce travail de concepteur qui, de fait, va faire de l'interventionnalisme.
C'est fort intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce projet? Peut-être nous rappeler sa date de livraison potentielle?
Alors, la date de livraison, je ne vais pas m'aventurer dessus, puisque c'est...
Oui. Peut-être une échelle, alors. Une échelle de projet.
En théorie, on aimerait beaucoup pouvoir le livrer avant les prochaines municipales de 2026.
Bon, c'est relativement prêt.
C'est très près, oui. Mais comme je disais, on est en train de finaliser la passation de marché. Donc, le chantier va débuter
demain.
Mai-juin.
Ouais. Ouais. Alors, c'est propice de démarrer un chantier à cette période de l'année?
Alors, pas pour le végétal, mais comme tout projet ne commence pas par le végétal et qu'on fait une désimperméabilisation, justement, on va pouvoir désasphalter à cette époque. Limiter aussi tout ce qui est poussière. Il y a tout un travail de charte chantier propre. Et puis, étant donné qu'il y a un gros travail sur la pédologie, on va faire tout ce travail-là en été, le temps que la terre se tasse, prenne un peu ses marques. Et puis, ça sera à l'hiver, l'hiver, début du printemps prochain, qu'on pourra faire les plantations.
Alors, peut-être pour ce... sujet-là une petite conclusion ou...
Ce projet, il est très intéressant parce qu'il donne le ton sur le quartier pour montrer que la désimperméabilisation est possible. On a de plus en plus d'expériences dans ce sens-là. Par exemple, à La Rochelle, on est en train de livrer un groupe scolaire où, pareil, on a désasphalté plus de la moitié de l'ancienne cour. C'est une grosse réhab qui est menée par Archi 5. Et donc, tout le travail aussi, là, c'est retrouver la terre et on est à proximité d'un marais. Donc, tout un travail de logique sur l'eau. C'est toujours intéressant de travailler sur la palette végétale parce qu'elle va induire un travail sur la terre et forcément sur l'eau, donc forcément sur la topographie. Donc, depuis le végétal, on arrive aussi à dérouler toutes les disciplines du paysage.
Alors, il faut peut-être rappeler à nos auditeurs les plus profanes, on va dire, que pour mieux gérer l'eau, on est obligé de retrouver une porosité.
Oui, il faut de plus en plus.
Oui, autrement, on provoque les problèmes.
Alors, ils sont amplifiés, ouais. Ça c'est évident.
Oui, ils sont amplifiés.
Ils sont amplifiés. Mmh. Aujourd'hui, il y a pas mal de collectivités, pas toutes encore, ouais, qui ont compris ce principe-là de ville éponge. Nous, dans notre travail, on essaye, je dis bien on essaye parce que faut pas croire que tout est facile et tout beau, hein. On galère aussi beaucoup. L'idée, c'est là où la goutte d'eau de pluie tombe, il faut qu'elle s'infiltre dans un périmètre très restreint autour d'elle. Il ne faut pas l'envoyer dans des caniveaux pour multiplier les réseaux, pour l'envoyer dans les réseaux qui sont saturés, qui vont se mélanger avec le tout à l'égout, qui partent à l'épuration. Enfin, il faut du bon sens. Et le bon sens, c'est de gérer à la parcelle, mais gérer à la parcelle de manière intelligente, éponge, tu disais, poreux. Et ça, c'est primordial. Ce n'est pas toujours le cas, puisqu'il y a des sous-sols qui ne le permettent pas. Donc voilà, c'est toujours pareil, c'est au cas par cas, il faut beaucoup analyser, il faut se documenter. On ne peut pas plaquer un projet d'une collectivité à une autre. Et même au sein même d'une même commune, il peut y avoir des poches d'argile qui nous empêchent d'infiltrer, alors qu'à côté, oui.
Ouais. Ce qui est très intéressant dans ce cas-là, on imagine mal un retour à une nature originelle. Pour les bassins à flots, c'est clair qu'on va vers quelque chose de plus... d'une reconnexion, on va dire.
C'est ça.
Oui.
Une reconnexion, laisser de la place autre qu'à l'humain. Donc, justement, si on fait un travail de pédologie, il va y avoir toute la microfaune du sol qui va revenir, on l'espère. Avec elle, tout le travail aussi de l'humus, retrouver cet humus-là. Pas d'exportation des feuilles mortes qui tombent. Dans notre palette végétale, on n'a quasiment que des caducs. Donc, ils perdent leurs feuilles. Parce que dans la vraie vie, c'est ça aussi. Pendant très longtemps, on a voulu que des persistants. On voulait des fleurs toute l'année. Mais la vraie vie, en tout cas en France et à Bordeaux, c'est pas ça.
c'est bien, c'est toujours le cas. Donc.
De moins en moins, quand même.
Ouais. Et donc, après, ce sont les champignons qui œuvrent.
C'est les champignons, ouais. Tout à fait. On n'est pas encore... J'ai essayé sur un projet de garder des arbres existants morts. Justement parce qu'il y avait un trou de pivert ou de piquet-pêchette. Je ne sais pas, je n'ai pas identifié l'oiseau en particulier, mais en tout cas, il y avait un trou d'oiseau qui fait son nid dans les cavités des arbres. Et j'ai voulu le garder. Et en fait, dès le début, on m'a dit « Non, tu es complètement fou, ça va tomber, ça va blesser quelqu'un. Par mesure de sécurité, on va le couper. » Donc, il y avait aussi des champignons, vous savez, les espèces de champignons qui font des plateaux, je ne sais pas comment ils s'appellent. Ouais. Langue de bœuf ou un truc comme ça. Et donc, on n'en est pas encore. Hein. La place aux champis dans le projet, c'est...
Oui.
C'est loin.
C'est loin. Bon, les écologistes ont encore du boulot. Bon, je vais peut-être pas...
Oui, les écologues.
Oui, les écologues. Parfaitement. Les écologues ont encore du boulot. Voilà. Peut-être que tu peux nous parler d'un autre projet.
Oui, alors... Autre projet, mais qui n'est pas dans de la maîtrise d'œuvre publique, où on est plutôt sur de l'étude. On est à la quasi-fin d'une grosse étude qu'on a menée depuis 2 ans avec l'atelier Philippe Prost sur un PVAP, donc un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. dans le centre-ville de Reims, où, pour une première fois, vraiment, il y a eu une réflexion sur la place de l'arbre en tant que patrimoine et dialogue de l'arbre et du végétal dans le centre-ville, de dialogue entre l'architecture patrimoniale et son pendant végétal. Et comment les deux dialoguent ? Comment un hôtel particulier devient remarquable parce que justement il a son jardin de pleine terre derrière avec ses arbres remarquables, et que si on lui enlevait son jardin, le bâtiment serait joli, mais il perdrait de sa
valeur.
Voilà. Et donc, il y a eu toute cette intelligence de la ville de Reims et du Grand Reims qui mène le projet, d'intégrer un paysagiste, parce que ce n'est pas tout le temps le cas, dans cette étude-là. Et en fait, on a fait quasiment 4800 parcelles où on a été faire du porte-à-porte. Pour déjà, donc, les archives de l'atelier Philippe Prost ont fait tous les bâtiments, tous. Et nous, on a fait tous les jardins, privés, publics, tous, répertoriés, tous les arbres, toutes les surfaces de pleine terre. Gros, gros travail qui est mené par Clémence, qui travaille avec moi à l'agence.
C'est l'enquêtrice de l'agence.
Voilà, qui a fait tout un travail aussi sur de SIG, de cartographie,
ouais.
Où maintenant on a une très jolie carte, un plan polychrome, puisqu'on est tenu d'avoir des légendes nationales qui est déterminée par l'État. Et donc, ça prouve aussi que désormais, le paysage est considéré autrement que simplement pour faire un jardin. Ça veut dire qu'il y a une valeur de l'arbre, du jardin, dans la ville. On parlait de la ville éponge et de la ville poreuse. Il y a eu des forts épisodes en fait, d'inondations à Reims, de fait d'un centre-ville qui est très minéralisé. Nous, tout notre objectif, c'est de préserver ces jardins de pleine terre. Et tant pis si on ne peut plus construire à ces endroits-là. Donc, ça fait grincer des dents, évidemment. Mais c'est un fort message politique aussi.
Moi, je trouve ça formidable d'arriver à ça.
J'ai envie de dire, c'est couillu.
Oui.
Parce que tout le monde ne le fait pas, d'un point de vue politique. Nous, on pousse. On aimerait même aller plus loin, mais on nous dit, c'est déjà bien. On aurait voulu préserver tous les arbres. Même les plus moches, parce qu'ils ont leur valeur, pour lutter aussi contre les îlots de chaleur. Mais on a fait le choix d'avoir plutôt les arbres dits remarquables. Et après, il y aura un autre travail d'identification de l'ensemble des arbres du patrimoine, du patrimoine arboré. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui est, qu'on mène à l'agence, que j'aimerais bien mener davantage d'autres études dans ce sens-là, vraiment avoir et de la maîtrise d'œuvre, donc créer, concevoir et puis suivre le chantier, et en même temps des études pour faire bouger les choses, mais en lame de fond, vraiment en plus silencieux,
oui.
Moins avec les gros engins de chantier.
Oui, et que ça devienne naturel.
Je pense que ça va le devenir.
Oui, je pense aussi. Il faut après que ça tienne. Donc, j'imagine que ton agence ne réalise pas les projets. Tu trouves des entreprises de paysage dans chaque ville dans laquelle tu interviens ?
Oui, alors je ne les trouve pas, parce que c'est des appels d'offres publics. Donc, en fait, ils candidatent au même titre que moi quand je vais candidater pour les maîtrises d'œuvre. Et donc, oui, il y a de toute manière un tissu d'entreprises, d'espaces verts partout en France. Et donc, on travaille avec plusieurs entreprises sur pas mal de projets. Sur le groupe scolaire, par exemple, de La Rochelle, que je disais tout à l'heure, on est avec l'entreprise Cagev, qui est une entreprise locale, donc qui connaît parfaitement les enjeux territoriaux. Et généralement, on fait en sorte d'avoir des entreprises qui sont implantées localement. Déjà parce que c'est du bon sens aussi que de faire déplacer des camions, des matériaux de je ne sais où. Donc c'est aussi pour réduire notre impact. Les appels d'offres après publics sont lancés par les collectivités.
Alors le paysage est une histoire de temps long. Mon petit doigt m'a dit que tu aimerais faire comprendre aux commanditaires la nécessité d'intégrer le paysage dès les premiers moments de gestation du projet. Et pour éviter aussi le greenwashing, le syndrome du pot de fleurs. Peux-tu nous préciser ça ?
Oui, alors mais ça, c'est maintenant... moi, ça fait 10 ans que je travaille en agence. Bon, à l'atelier NDF, maintenant, on développe une quarantaine de projets en simultané. On n'est pas amené dans le groupement de la même manière sur tous les projets. On constate que si dès le début, dans les règlements de consultation des appels d'offres et des concours, tout dépend où est-ce qu'on est positionné dans la liste. Si on nous demande un architecte, généralement, quand on dit BET paysagisme, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'en fait, ils l'ont mis parce qu'ils étaient obligés, mais en fait, ils s'en foutent.
Ouais.
Et qu'on va avoir un lot vraiment de parents pauvres. Et arriver à l'APD où on est en train de définir et de bloquer contractuellement l'enveloppe budgétaire, c'est sûr qu'on va taper dans l'enveloppe du paysage. Donc déjà, on commence à sentir des petits détails dans les écrits. Généralement, BET paysagisme, moi, j'y vais pas. Déjà, je trouve ça vraiment très vilain comme mot, paysagisme. Il y a déjà un mot qui existe, paysage. Je pense qu'ils ont voulu faire un copier-coller avec urbanisme. Mais enfin, moi, ça m'hérisse les poils. Quand j'entends du paysagisme, j'ai l'impression que c'est saupoudré vaguement des paillettes vertes. C'est pas ça mon travail, c'est pas ça mon métier. Moi, je fais du paysage, je suis paysagiste. Je suis pas un bureau d'études, je suis un concepteur. Ça aussi, je ne comprends pas pourquoi, devant BET paysage, en fait, je fais le même travail que les architectes, en fait. L'architecte, il n'est pas considéré quand même BET. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est dénigrant d'être attribué en tant que BET. Ce n'est pas le même travail. Le BET, il ne va pas concevoir. Moi, quand je travaille avec un VRD, il ne dessine pas. Quand je travaille avec un bureau d'études structure parce que je fais des toitures végétalisées, il ne dessine pas.
Puis la responsabilité n'est pas la même.
Exactement. Donc, arrêtez, et ça c'est un message aux collectivités, même aux autres architectes, hein, même à d'autres métiers qui gravitent autour de la conception et de la fabrication de la ville et des projets d'aménagement du territoire. On n'est pas des bureaux d'études, on est des concepteurs. Et on n'est pas du paysagisme, on fait du paysage. Donc ça, c'est hyper important, je pense, parce que les mots ont une valeur.
Bien sûr.
Et donc, si dès le début, dans le règlement de consultation, on voit qu'on n'est pas considéré, ou bien ça veut dire qu'ils n'ont pas compris notre valeur ajoutée et notre compétence. Et ça veut dire qu'on va galérer après pour développer le projet.
Donc finalement, dans l'inconscient collectif, on est encore très minéralisé.
Dans certaines collectivités, oui. Mais après, faut pas les blâmer parce que beaucoup ne sont pas formés. Donc, il y a une grosse lacune de formation aussi de nos élus, et pas que de nos élus, des techniciens qui sont dans les collectivités.
Donc, il y a oui, un travail pédagogique.
Ça, on n'arrête pas. On n'arrête pas. Franchement, Alors, autant, il y a 3-4 ans, quand j'étais venu te voir, j'étais encore tout enthousiaste. La sensibilisation à la pédagogie, évidemment qu'on en fait, mais ça devient fatigant.
Oui, bien sûr.
J'aimerais bien qu'un jour, bon, il y a beaucoup de projets, par exemple sur le port, quand je parle, quand je fais des propositions, on m'écoute très volontiers, on ne remet pas en cause ni en doute mes idées et mes compétences. Ce n'est pas toujours le cas.
Alors, je sais qu'il te tient à cœur d'apporter dans ton atelier la notion d'équilibre et de bien-être au travail. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail ?
Oui. Et alors ça, c'est quelque chose que je développe personnellement. Déjà, quand je travaillais en tant que freelance chez Coloco, c'était quelque chose que je mettais en place, non sans difficulté parfois.
Tu bataillais ?
Oui. En fait, il y a cette valeur, je ne sais pas pourquoi encore, dans l'architecture et le paysage, de la charrette. Je ne la comprends pas. Je ne la comprends plus.
Ouais, c'est vraiment comme en archi.
Voilà. De vouloir aller au bout du bout physiquement, se faire mal pour pouvoir sortir un projet. Mais stop, arrêtons. Enfin, moi, je fais en sorte, et je peux le dire vraiment ouvertement, il n'y a pas de charrette. Je ne fais pas de charrette. Je ne fais pas faire de charrette à mes employés. Je m'organise en amont. J'anticipe. Je fais un travail vraiment de fond qui est parfois douloureux de devoir faire barrière justement parce qu'on reçoit beaucoup, beaucoup de demandes, des mails à 9h du soir, un dimanche, et le lundi à 10h, pourquoi tu ne m'as pas répondu ? Ben parce que, voilà, je ne suis pas pompier, je ne suis pas médecin, je ne sauve pas des vies, on fait du paysage, on fait des bâtiments, il n'y a pas mort d'homme. Si tu l'as envoyé à 9h, à 21h un dimanche, ça veut dire que ça peut très probablement attendre le lundi, et voire même après. Donc, je gère mon temps et je fais en sorte que mes équipes n'aient pas toute cette pression-là inutile du vite, vite, vite. Ah oui, oui, mais on est charrette, on a mis du temps. Vous avez 3 jours pour faire votre plan masse paysage parce que nous, on a pris du temps pour le faire. Bah, fine, mais je vais mettre le temps qu'il faut pour pouvoir faire mon plan correctement. Mais je ne vais pas me saigner aux quatre veines parce que toi, tu t'es mal organisé. C'est un sujet de santé mentale. Mais vraiment.
Et puis de qualité aussi, de rendu après, parce qu'on ne travaille pas bien.
De toute manière...
On est épuisé.
On est épuisé et on sait très bien que le concours qu'on rend, ça ne sera pas du tout ce qu'on livrera à la fin. Parce qu'il va y avoir des quantités phénoménales de visio, des quantités phénoménales de réunions, des quantités phénoménales de phases... De nouvelles phases qui apparaissent, qui ne sont même pas déterminées par la loi des marchés publics. Donc, ça part dans tous les sens. Et moi, mon travail en tant que directeur de l'atelier, c'est de structurer, déjà pour moi, hein, c'est pas non plus un altruisme infini, c'est déjà pour moi. Et si moi, ça marche, ça marchera pour mes équipes.
Bien sûr. Vous êtes combien à peu près ?
On est 4.
Oui, c'est déjà bien.
C'est déjà bien. Ouais. J'ai pas pour ambition
de croître.
D'avoir beaucoup d'employés. C'est pas mon objectif. Oui. Je veux pouvoir continuer à faire des projets. Et donc, on sait très bien qu'à un moment donné, quand l'agence croît, on s'extrait un peu aussi du dessin, de la conception et de la réflexion au profit d'un management. D'un travail, faut aller trouver des projets coûte que coûte pour pouvoir nourrir l'équipe.
Oui, c'est faut un autre travail. Moi, je suis très impressionnée par ta réussite quand même, parce que c'est récent. Bravo.
Merci.
Je sais pas quel est ton secret, mais vraiment bravo. Du travail, beaucoup de travail quand même.
Alors oui, ça c'est évident, oui. Beaucoup de travail. Après, je crois que je mens pas. Ça veut dire que maintenant, j'ai suffisamment d'expérience. Suffisamment de caractère. Généralement, quand je fais des projets avec les équipes, dans les groupements, soit ça passe, soit ça casse. Je vais pas mentir. J'ai quitté des groupements parce que ça se passait mal, soit avec le mandataire, soit avec la maîtrise d'ouvrage. Je ne veux pas que ça impacte ma santé mentale et celle de mes équipes juste pour avoir une référence. Je ne veux pas.
Donc, tu es quelqu'un qui sait dire non.
Ah, je crois que je dis davantage non que oui.
Bon. Alors, c'est peut-être un bon signe, finalement.
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du travail pour tout le monde. Le paysage est porteur.
Ouais.
Tu disais, c'est courageux de lancer l'agence en plein Covid. J'ai jamais autant travaillé que pendant le Covid. Parce qu'il y avait vraiment cette prise de conscience du paysage, de l'extérieur, du territoire, de la terre. Et je pense que c'est quelque chose qui, maintenant, est acquis et qui va continuer. Donc, il y a beaucoup de projets. Je pense, sans être devin, qu'il y aura un trou d'air avec les prochaines municipales et présidentielles.
Comme d'habitude.
Voilà. Donc, il faut s'attendre à avoir un petit creux d'appel d'offres publics. Donc, ça, c'est à nous, chefs d'agence, d'anticiper pour avoir suffisamment de projets étalés à différentes phases. Donc, ça, c'est important de le faire. Mais le fait de dire non, ça détermine aussi une posture. Moi, quand on m'appelle en me disant « on est en APD », oups, on se rend compte au dernier moment que, ben oui, on a besoin d'un paysagiste pour pouvoir déposer le permis de construire. Ah ben, ciao, ciao. Non, non.
Surtout que le paysage s'inscrit sur des temps longs. Donc,
C'est sur du temps long au même titre que l'archi. Hein.
Oui.
Dans les études, le chantier. Après, en effet, quand moi, je livre un projet, il n'est pas jojo. C'est pas le jardin des rêves, c'est pas l'espace public qu'on imaginait. C'est généralement assez éloigné des perspectives de concours qu'on a distribuées, parce qu'on donne une image un peu finie.
Oui, c'est une intention.
Voilà. Mmh. Alors que quand moi, je vais planter les arbres, il va falloir attendre 50 ans pour qu'ils arrivent
à maturité,
pour
oui,
montrer
justement,
l'image.
La différence avec l'architecture, c'est qu'on construit encore pour 50 ans globalement aujourd'hui, ce qui est assez scandaleux. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça incroyable. Mais bon. Et la nature, elle, enfin, un arbre, il met 50 ans à arriver.
Au minimum, suivant son essence, oui.
Ouais. Donc, vous n'êtes pas quand même sur les mêmes temporalités, tout à fait.
Non, mais c'est vrai que quand on livre le projet, après, nous, on n'a plus rien à faire.
Ouais. C'est livré.
Voilà, c'est la gestion. Et suivant la gestion qui sera faite sur le projet, le projet peut avoir toute autre allure. Hein. Aussi en mieux comme en pire.
Tu as regardé un peu les projets Europan ? Je te pose cette question parce qu'il y a une génération qui me paraît très engagée, qui semble émerger. Peut-être très radical à certains moments, mais bon, ça, il faut bien que jeunesse se passe. Quel conseil donnerais-tu aux étudiants en paysage, mais aussi en architecture, aujourd'hui ?
Alors, le conseil que je pourrais donner, ça serait de faire ses propres erreurs, d'accepter de faire des tests, que ça soit un peu laboratoire, que tout ne soit pas parfait, de lâcher prise. C'est-à-dire que quand on a une idée en tête, l'idée, au final, ça ne sera pas du tout... Enfin, il y aura de l'idée à la fin, mais il faut...
Savoir renoncer.
Savoir où sont ses combats. Ne pas imaginer qu'on peut être de tous les combats de la même intensité. En choisir un et y aller, mais à fond. Et je pense que si on est convaincu par ce combat-là, les portes s'ouvriront, soit certains te donneront la clé, soit en fait, y va à coups d'épaule. Et il ne faut pas avoir peur. Et justement, le fait d'être radical, je pense que de toute manière, il n'y a rien au monde qui n'a pas changé sans avoir été d'abord radical.
Oui, puis c'est aussi un bon signe que de l'être quand on est jeune. Dans le sens où on est prêt à embraser le monde et à le construire, enfin, entre guillemets, hein, parce que c'est peut-être pas le bon terme, ou en tout cas à préparer l'avenir. Batailler, c'est un bon signe.
Batailler, c'est important parce que ça fait partie de la dynamique du vivant. Mmh. On est une espèce pour batailler. Donc, quand c'est un peu trop plan-plan, on s'ennuie, et donc il faut bousculer, il faut désasphalter, il faut détruire, il faut refaire. En fait, rien n'est gravé dans le marbre. Et quand on...
Oui, en fait, je pense qu'on sort d'une période où l'historicisation était très prégnante.
Oui.
Et qu'on se rend compte que finalement, les choses, elles bougent sans arrêt.
Exactement.
Et du coup, il faut composer avec ce mouvement en permanence.
Exactement. Parce que nous, on nous demande beaucoup de ce paysage-là, je l'aimais, je veux le préserver. Mais c'est une carte postale, ce paysage-là, qu'on a sous les yeux. Ce n'est pas du tout le paysage d'il y a 100 ans, et ça ne sera pas le paysage d'il y a 100 ans aussi. Le paysage, c'est une synthèse de tout un tas de choses. Et donc, forcément, tout est mouvant. La consommation qu'on a de ce paysage, les dynamiques du vivant. Donc, en fait, préserver le paysage... Oui, mais le mettre sous cloche et le muséifier, non, il faut qu'il évolue aussi.
Est-ce que tu as eu le temps de relire Le Baron Perché ?
Non, j'ai pas relu. J'ai lu tous les Arsène Lupin.
Ah.
Je suis calé sur tous les Arsène Lupin. Le Baron Perché, non, je ne l'ai pas relu. Mais je relis encore très régulièrement L'Homme qui plantait des arbres de Giono.
Mmh.
Tout le temps.
Ouais.
C'est un petit livre, mais je le trouve d'une poésie folle.
Oui, c'est vrai. Un mot de la fin, on termine sur Giono. Enfin, Giono.
Giono. Moi, je pense que Giono, il avait déjà tout compris. Et l'homme qui plantait des arbres, pour moi, ça résume tout ce qu'il faut.
C'est parfait. Merci beaucoup, Nicolas, d'être
merci.
Venu. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.
Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.